con su posición avec la piroga, van con la marée glace.
Ici, il y a des crocodiles. Ici.
Donc, il faut faire vite monter avant que la, le plus méchant te trouve ici.
Ok, je me dépêche.
Si loin, si proche, en Casamance, sur RFI.
Moteur en marche.
Si loin, si proche, le rendez-vous des voyages. Céline Develay-Mazurel, Laure Allary, Raphaël Constant. Bonjour à tous, c'est en pirogue qu'on vous a laissé la semaine passée et c'est en pirogue que l'on se retrouve pour la suite de notre voyage dans la réserve ornithologique de Kalissaï, située tout au sud du Sénégal, en Casamance. Cette région sauvage, d'une rare beauté, connaît depuis des décennies un conflit indépendantiste qui rend parfois, à juste titre, compliqué la décision des voyageurs de s'aventurer là-bas. Pourtant, une fois sur place, avec Raphaël Constant parti pour nous, c'est un îlot, des îlots de quiétude et de vie simple au fil de l'eau que l'on découvre sur plus de 30 000 hectares. En compagnie d'agents de la réserve, mais aussi de villageois insulaires, tous engagés dans la conservation de cet environnement fragile, fait de marigots, de bancs de sable ou de vasières, entre eau douce et eau salée. À l'embouchure du fleuve Casamance, face à l'océan, on a déjà arpenté la semaine dernière avec Raphaël les bras de mangrove et les villages qui nervurent ce territoire de réserve protégé, créé en 1978 et habité dans une gouvernance communautaire partagée. Vivre à Kalissaï, cela veut dire alors vivre loin des grands centres, mais aussi vivre au rythme des marées, de la nature, parmi les siens, parmi aussi les mammifères marins et les oiseaux. Alors pour commencer le deuxième épisode de ce reportage au cœur de cette réserve ornithologique, on va lever le nez avec Raphaël et Jean, agents des parcs nationaux à Kalissaï, et on va regarder loin.
Courli Courli 25, Pélican Gris 6, Sterne Caspienne 2, Aigrette Dimorphe 1, Héron Cendré 2, Spatule d'Europe 3, Spatule d'Afrique 4, Ibis Sacré 5, Grande Aigrette 10, Aigrette Gargette 25,
Jean, qu'est-ce que vous êtes en train de faire?
Je suis en train de dénombrer les oiseaux qui résident actuellement au niveau de l'éronnière de Cassel. Ça, c'est un pélican qui vole.
Qui vient de faire un tour au-dessus de nos têtes.
Voilà.
Il est immense.
Voilà, voilà. L'activité du suivi des oiseaux permet au moins aux agents de la réserve ornithologique de Kalissaï de savoir quelles sont les espèces qui sont présentes dans la réserve et à quel moment.
On est à bord de la pirogue. Ce matin, il est très tôt, presque 7 heures.
Oui, pour nous, nous croyons que c'est tôt, mais pour les oiseaux, c'est un peu tard. La quasi-totalité des espèces sont déjà sur le terrain pour la recherche de la nourriture.
Je peux voir les jumelles?
Est-ce que vous pouvez la passer, les jumelles, s'il vous plaît?
Donc, ah oui, il y en a une vingtaine devant nous là.
Il y a d'autres qui ne sont pas encore partis pour la recherche de la nourriture.
Là, les oiseaux en face de nous se sont perchés dans les arbres de la mangrove à l'ombre.
Oui, il y a des nids qui sont formés. Quand tu regardes très bien avec les jumelles, tu verras qu'ils ont constitué des nids sur la mangrove. Et c'est là où ils se reproduisent. Ce sont les seuls oiseaux rares qui s'y reproduisent, surtout les pélicans. Ils peuvent se reproduire sur la mangrove comme ils peuvent se reproduire à bas le sol. Ils se reproduisent ici parce qu'ils savent que la réserve est un site poissonneuse. Et ici, au niveau de l'éronnière de Cassel, comme dans le site sablonneuse de Sankoy, où ils font la reproduction, la sécurité est totale. Vous les voyez là-bas, les pélicans.
On continue le suivi?
Sambou, on y va. Nous sommes devant une vasière. Une vasière, c'est une zone nourricière pour les limicoles, les tout petits. Donc, quand la marée se retire, vous avez la vasière qui apparaît. Nous avons des avocettes élégantes, des tournipères à collier, des barges rousses, des bécasso cocorli. Il y a différents types d'espèces qui s'alimentent ici au niveau de cette vasière. Il y a d'autres qui ont le bec long, courbé. D'autres ont un bec sous forme de pipe.
Sous forme de pipe orientée vers le haut.
Orientée vers le haut. C'est, quand je dis pipe, ça veut tout dire. La forme du bec facilite à l'espèce de la prolonger dans la boue pour suturer la nourriture. Au niveau des tarses, vous voyez ce qu'il a?
Non.
C'est un balisard qui a chipé un poisson. Donc les oiseaux ont différentes sortes de façons de se nourrir. D'autres se nourrissent par le bec pour saisir la proie. D'autres utilisent leur serre pour agripper sur la proie et la serrer entre les doigts, s'envoler avec, pour aller se nourrir sur une perche. La balbizarre, à une certaine altitude, repère déjà la proie dans l'eau. Et il fonce avec une vitesse extraordinaire. Il peut même pénétrer jusqu'à 1,5 m dans l'eau pour soutirer la proie. Et c'est ce qui témoigne au moins que la réserve, quand elle est bien protégée, il y a du poisson. Et quand il y a du poisson, ces espèces qui sont des indicateurs, parce que là où il y a les oiseaux, là où les oiseaux montent, redescendent, foncent et ressortent, c'est le poisson qui est là-bas. Vous les trouverez partout où vous tournez. Sans quoi, les pêcheurs, quand ils le constatent, automatiquement, ils jettent le filet. Et sans tarder, ils bénéficient de ce qu'ils veulent et ils rebouchent chemin.
On avance vers la pointe, vers le sud encore?
Exactement, il nous reste 2 mailles pour nous arriver à l'embouchure. Nous sommes présentement à Canès. C'est presque cette, je peux dire c'est une presqu'île.
Et quand on arrive, la première chose qui saute aux oreilles, c'est les oiseaux.
Exact. C'est le bruit des oiseaux parce que nous sommes presque en terre pleine et nous regardons comme ça les îles. Les îles d'Iblis. Les Blis, c'est une déformation du dialecte qui est là parce que cela veut dire brise, la brise de vent, de mer. Comme eux, ils sont à quelques mailles de l'embouchure. Dès que la brise commence à souffler, tous ces villages environnants le ressentent. C'est différent des autres villages qu'on appelle les villages de Caron, qui sont un peu cachés par la mangrove. Donc il y a une barrière de forêt de mangrove qui les empêche de recevoir cette brise qui vient de l'embouchure. Ici, vous voyez Kailo, Boun, d'où nous venons, et Boko, qui est à proximité, sont des voisins. Et il y a aussi Saloulou.
Et nous, là, vous êtes en train de me montrer le rivage en face.
Voilà. Je reste pour surveiller la pirogue parce que la marée descend avec force. Et je crains qu'elle laisse la pirogue en rade.
Bon, j'avance alors.
Oui, ok, d'accord, donc c'est bon.
À tout à l'heure. Je remonte un sentier qui est bordé par des cocotiers, des palmiers. À ma gauche, il y a des fleurs roses fuchsia et blanches. Il y a des filets de pêche aussi posés sur les côtés. Et des tas de paille pour la toiture sûrement.
kanu mum bina manokorote o alina mo e bina korote mama nidi kanu mum bina manokorote o alina mo e bina korote ndesam Nijikanu mum bina manokorote o sandule bina korote ndesana Nijikanu mum bina manokorote o atiyomo bina korote ndesana
Je m'appelle Asandule. Le nom, comme je suis un griot, mon nom s'appelle Asandule. Je suis en train de jouer les contings. Ça, c'est la culture Djola. Maintenant, c'est bon, tu peux aller.
Qu'est-ce qu'on vient d'écouter?
C'est à Calabas. Avec la peau de chèvre, avec le bambou.
Ça a un nom cet instrument ?
Ça s'appelle Ekonting. Je joue souvent. Je suis là depuis 15 ans. Je suis là.
Et qu'est-ce que vous faites ici ?
La pêche des chèches, la pêche des barracudas, des capitaines, tout ça. Au début, il y avait des tortues partout, même dans le bolon, tout ça. Je vois beaucoup de choses, mais je trouve que ça commence à disparaître. Comme que je suis éco-garde, par exemple, si quelqu'un vient ici pour la pêche ou quelqu'un qui fait la chasse, je lui dis non, ça c'est interdit actuellement de tuer même les crocodiles. C'est en train de servir aussi les tortues et tout ça. Parce que pendant l'hivernage, les tortues, surtout ici, montent pour pondre ici. Ça fait des années, je connais à quelle heure qu'ils montent, à quelle heure qu'ils descendent. Il ne faut pas les tuer. Il y a des gens qui le mangent, les tortues. Parce que j'ai posé les questions aux éoforêts, pourquoi ils ont dit qu'il ne faut pas tuer les tortues. Ils m'ont raconté comment les tortues font. Ils jouent un rôle de faire venir les poissons parce qu'ils bouffent les méduses. Parce que les méduses, ils tuent les poissons aussi. Là, maintenant, les poissons, ils suivent les tortues. Moi, je suis habitant d'île et je suis citoyen aussi. Il faut que je participe aussi parce que vraiment, je suis intéressé de ça aussi.
Mais comment vous êtes devenu éco-garde?
Au début, moi j'ai signalé le commandant Baldé. Et je lui avais dit, ben, il y a des tortues qui pondent, mais il y a des varans. Ils viennent creuser là où il y a des œufs. Ils mangent tous les œufs qui sont.
Les œufs des tortues?
Oui, des œufs des tortues. Est-ce qu'on ne peut pas protéger pour que les varans n'arrivent pas à creuser les œufs? C'est un truc qu'ils ont nommé parce qu'on est dans le coin là où il y a les tortues, les lamantins et tout ça. C'est pour cela et lui, il compte sur moi toujours. Si on voit quelque chose qui n'est pas normal, on va aller signaler à Baldé parce qu'il n'est pas sur place. Il est un peu loin.
Donc en fait, c'est vous les mieux placés pour constater l'état de la nature.
Voilà, c'est ça. C'est pour cela qu'il nous a choisis. De nommer éco-garde parce qu'on circule toujours dans la plage. Je circule parfois jusqu'à l'embouchure pour regarder les oiseaux. S'il y a quelqu'un qui a fait du mal, je vais le signaler. J'ai son numéro. S'il y a quelqu'un qui te voit, ils vont t'amener à la prison ou tu payes l'argent. Par exemple, tu dois payer 300 000 CFA. Quand je vois quelque chose, éclosion de tortues, à ce moment-là, on vient ensemble jusqu'à là-bas. Pour cela, il a choisi de me mettre éco-garde. C'est un travail citoyen bénévole parce que je ne suis pas nommé sur l'État.
Et pourquoi vous en particulier?
Parce qu'on est sensible de cette question de réserve de Kalisaï parce que on a vraiment vu que c'est bon pour nos enfants après.
Est-ce que vous voyez du changement dans la réserve?
Oui, moi je vois beaucoup de changements. Je vois les caticulis, il y en a beaucoup, même dans l'embouchure de là-bas, avec des pélicans. Avant, ce n'est pas le cas, parce que les gens, ils prennent leur fusil pour tirer, pour manger. c'est difficile de faire comprendre les gens. Mais petit à petit, on dit ça, un oiseau fait son nid.
Bakary, est-ce que cette vie sur une île, en tant qu'éco-garde, elle est difficile ou elle vous plaît?
Pour moi, ce n'est pas difficile de vivre dans cette île, tout seul, avec ma femme, avec mes enfants.
Parce que vous n'êtes même pas dans un village, en fait, vous êtes vraiment seul sur cette île.
Oui, quand tu restes tout seul, tu seras libre comme un président, quoi.
Quando tu laxago e na sai mando wete tok ti birimbolo mai joy di joy beoi gamel ni kumagisu quando ramna ni bonulo da konek mananju tamit amal khal te xamne nit yangi ñu seitan nit moy defar ku baax nit itam defa xawa doy war may xalat di mer muy gif sama bëggel nax na ma nga xaar ba man ma min la nga dem wacca mama we
On est en train de faufiler entre les mangroves le long d'un tout petit chenal qui n'a pas été aménagé cette année.
Attends, je baisse la tête. C'est un bras de la mangrove. Et les racines des palétuviers sont en fait en train de griffer la pirogue. Il faut baisser la tête pour ne pas se faire attraper.
On est à marée basse, ce qui fait que notre pirogue a du mal à passer. Et nous sommes en face de l'ancien village de Boko, qui a été inondé et les populations ont déménagé pour aller habiter ailleurs. Parce que la mangrove a été dégradée ici, donc ils n'ont pas eu de possibilité de se sauver, donc ils ont quitté pour aller dans un autre milieu.
C'est impressionnant parce que les palétuviers sont au-dessus de nous, on ne voit plus le ciel.
Oui, depuis presque 2 km, on n'aperçoit même pas le soleil. Notre chemin est complètement recouvert de palétuviers. Et là, nous avons pris un raccourci pour rejoindre le grand marigot qui porte le nom de la réserve de Kalisai et qui s'appelle le marigot de Kalisai.
Si proche avec notre reporter Raphaël Constant et le commandant Paté Baldé, conservateur de la réserve sénégalaise de Kalisai. On vient de déambuler dans les dédales de la mangrove de cette aire protégée créée à la fin des années 70 en Casamance. Là, entre terre et mer, comme ailleurs sur les littoraux tropicaux, la mangrove, cette forêt typique des zones de marée, fait donc office de refuge pour tout un tas d'espèces menacées, mais surtout de rempart. Car les eaux montent et la terre recule.
La mangrove, d'abord, est un lieu de reproduction des poissons. La mangrove est importante aussi en ce sens qu'elle protège les berges contre l'érosion.
Elle protège les villages, en fait.
Oui, la mangrove protège les villages contre les vents violents. La mangrove est importante en ce sens aussi qu'elle fixe le carbone qui est utilisé par les êtres humains. Les estimations donnent qu'un hectare de mangrove peut séquestrer jusqu'à 7 tonnes de carbone.
Donc du coup, la mangrove, c'est vraiment un espace vital pour les espèces qui y vivent, qui s'y reproduisent, mais c'est aussi vital pour les populations, parce que la mangrove protège les villages et nourrit aussi les populations locales.
Oui, la mangrove est une ressource à protéger à bien des égards. Et c'est ce qui justifie un ensemble d'activités, que sont le reboisement des zones qui sont dégradées. Nous sensibilisons les acteurs sur l'impact de la mangrove.
Baldé, qu'est-ce qui menace cette réserve?
Les principales menaces au niveau de la réserve de Kalisaï, c'est d'abord le changement climatique. Vous avez l'élévation du niveau de la mer qui déverse les eaux marines au niveau du chenal.
De la mangrove?
Oui. Le déversement des eaux marines qui sont fortement concentrées en sel font que les palétuviers qui bordent les chenaux meurent. Mais l'autre menace aussi, c'est les coupes de bois pour la construction des habitations, la cuisson des aliments. Mais la plus grande menace au sein de la réserve de Kalisaï figure le port de Kafountine, qui constitue le troisième port de débarquement au Sénégal, le poisson. Une bonne partie du poisson est transformé localement avant d'être acheminé au marché hebdomadaire régional de Diaoubé. Et pour transformer ce poisson, les transformateurs ont besoin de bois d'énergie pour chauffer le poisson.
Pour les activités de fumage de poisson.
Et ça, c'est une très grande menace, d'autant plus que dans la partie continentale, les forêts sont presque dégradées dans tout le département de Bignona. Il ne reste que la réserve de Kalisaï qu'il faut protéger parce que sinon, la dégradation va être générale.
Baldé, est-ce que cette réserve de Kalisaï, elle est ouverte à tout le public? Est-ce que tout le monde peut venir la visiter?
Oui, la réserve ornithologique de Kalisaï est un site qui est ouvert à tout le monde et tous les résidents au Sénégal ou à l'extérieur peuvent visiter la réserve.
Et Baldé, on est en Casamance et donc c'est une région qui est régulièrement depuis plusieurs dizaines d'années secouée par un conflit séparatiste. Est-ce que les voyageurs hésitent à venir sur cette région?
Oui, ce conflit a eu un impact significatif sur la conservation même, avant même la visite des réserves. Parce que depuis que ce conflit a commencé, à partir de 1994, la réserve a eu à être fermée jusqu'en 2001. Quand les exactions du MFDC ont commencé, l'administration ayant peur que les agents soient victimes, donc on avait fermé la réserve durant 7 ans.
Ce sont les forces rebelles qui demandent l'indépendance de la Casamance.
Oui, c'est le mouvement des forces démocratiques de la Casamance qui demandait la séparation de la Casamance du Sénégal. Mais en plus, beaucoup d'organisations internationales avaient ciblé déjà la Casamance de manière générale sur sa liste rouge et que les touristes doivent se méfier de venir.
Et donc ça freine une certaine partie de l'économie ici des populations?
Oui, vous savez que la Casamance est dans sa grande partie une zone de tourisme. Et quand il n'y a pas de touristes, la plupart des campements et des emplois qui sont liés au tourisme sont bloqués. Et ce qui amène encore d'autres formes encore de, en tout cas d'insécurité.
Donc c'est important que ces activités touristiques elles ne cessent pas pour ne pas que les populations locales en subissent les conséquences et qu'elles puissent du coup rester chez elles et éviter l'exode rural peut-être.
Oui, je pense que de manière générale, tous les sites touristiques de la Casamance doivent être ouverts. Mieux encore, d'autres sites doivent même être construits et aménagés pour que l'emploi soit là et que tout le monde puisse avoir au moins quelque chose à faire pour ne pas tenter le risque de braver la mer pour l'Europe.
Où est-ce qu'on est exactement?
Nous sommes vers le site qu'on appelle Tchemeng. C'est juste à l'entrée du village de Ilol. Et nous sommes descendus de la pirogue pour venir faire des mesures de pH et de salinité. Mais déjà, nous voyons qu'il y a quelques reliques d'Avicennacé, qui est une espèce de mangrove.
Si loin, si proche. Écoutez, vous voyagez.
Victor, on est en train d'arriver dans le village d'Ilol. Et c'est chez vous.
Oui, je suis de Ilol. Je m'appelle Victor Diata. Je suis né ici à Ilol. J'ai grandi ici.
On est en train de remonter un sentier sous les arbres. Le soleil est en train de se coucher. Et j'entends au loin, j'imagine, un accueil.
Un accueil tout à fait chaleureux. Chez nous, c'est comme ça qu'on accueille nos hôtes de marque. Montrer toutes les facettes culturelles de la population. De la culture Diola.
Bon ben on avance. À gauche, il y a des vaches qui sont en train de brouter.
Il y a aussi nos rizières les plus proches, là où on cultive le riz.
Là, elles sont à sec.
C'est pendant la saison des pluies qu'on les cultive. Aujourd'hui, nous sommes en période de saison sèche.
Et tout autour de nous, il y a des arbres absolument immenses.
C'est des fromagers, des baobabs et d'autres arbres naturels.
On arrive au village de nuit. Il n'y a pas d'électricité, donc je découvrirai le village demain. Ouais. Par contre, pour l'instant, il y a le croissant de lune au-dessus de notre tête qui nous éclaire.
Tout le monde est venu nous accueillir, n'est-ce pas? Tout le village est là, les enfants, les hommes, les femmes, voilà.
Elles sont magnifiques, elles sont toutes vêtues de beaux pagnes colorés. Elles s'invitent les unes après les autres à venir danser au milieu du cercle.
Ces chants des femmes sont significatifs. Le plus souvent, c'est des femmes qui, à un certain moment de leur reproduction, ont des difficultés. Et Sophie, maintenant, à toutes les femmes qui les aident à avoir un enfant. Et par rapport à ça, elle compose plusieurs chants, n'est-ce pas, de regret, de joie, pour magnifier les gens qui l'ont aidé à avoir un enfant, deux enfants, des choses comme ça. Ici, c'est le village de Ilol. Comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de manguiers plantés par les populations elles-mêmes pour leur propre consommation. Nous sommes à l'autre bout encore du village. Ça, c'est une place publique. Ce gros arbre que vous voyez là, c'est un arbre naturel.
C'est l'arbre à palabre ?
C'est l'arbre, tout à fait, voilà, c'est l'arbre à palabre.
Et avec des branches qui tombent presque jusqu'en bas du sol.
Au bas du sol, donnant de l'ombre. N'est-ce pas pour permettre les enfants, les gens de se réunir, de discuter des problèmes du village.
Alors ce matin, sous l'arbre à palabres, il n'y a que les cabris qui sont en train de brouter autour. Oui. On entend les coqs et les oiseaux dans les arbres. Victor, combien de personnes vivent ici?
600 et quelques, vers 700.
Dans le village de Hilol?
Dans le village de Hilol, oui. Qui est situé dans l'île de Caron. Hilol est le plus gros village des 10 villages qui ceinturent la réserve.
Voilà. On est en train d'avancer dans le village. Et autour de nous, il y a différents types d'habitations, mais surtout des maisons en ciment avec des toits en tôle. Certaines sont peintes. Sur certaines maisons, je vois aussi des panneaux solaires pour générer de l'électricité.
Il faut rappeler que par le passé, ce n'était pas facile de voir du zinc. C'était de la paille qu'on récoltait, de la paille sauvage qu'on récoltait dans la brousse. On la dresse. Elle nous permet de couvrir nos maisons. Aujourd'hui, les gens sont en train de se débrouiller pour améliorer leur cadre de vie. Maintenant, les panneaux solaires qui sont sur les toits, c'est un projet, n'est-ce pas, que l'État a initié pour électrifier ces villages insulaires parce qu'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau potable.
Est-ce que c'est notamment pour ça que beaucoup d'insulaires finissent par quitter les îles et la réserve de Kalisai?
En partie, oui. Mais ce n'est pas la seule raison. La deuxième raison est que, comme on a le CM ici, le collège, c'est le seul CM qui est implanté au niveau de la réserve ornithologique de Kalisai. Aujourd'hui, certains ont réussi et sont devenus des enseignants, sont devenus des policiers, sont devenus des douaniers, sont devenus des militaires. Donc, ils ne peuvent pas rester ici. Ils finissent par sortir de l'île et aller habiter ailleurs. Donc, ce qui fait que l'exode rural est très accentué au niveau des îles. C'est lié aux difficultés, mais aussi à la recherche de meilleurs êtres. C'est chez moi.
On est devant votre maison?
Oui. On est devant ma maison, là. C'est ma maison familiale avec ma femme, mes enfants.
Et vous avez combien d'enfants, Victor?
Moi, j'ai 7 enfants.
Certaines cours sont délimitées par des clôtures en bois ou en feuilles séchées?
Oui. Oui, ça nous permet aussi de cultiver quelques légumes. Les populations vivent essentiellement de riziculture, hein. L'aliment principal, le riz, donc cultivé par les populations elles-mêmes, de la pêche, de la cueillette des fruits de forêt, n'est-ce pas, les ressources halieutiques telles que les arches,
les coquillages,
les coquillages, les huîtres.
Et souvent dans les villages, certaines familles peuvent avoir leur propre élevage. J'ai vu des cochons, des poules, des chèvres.
Tout à fait. Chaque famille peut avoir son propre élevage. Ça dépend des moyens de la famille. L'essentiel que l'activité quotidienne participe à améliorer le pouvoir d'achat du concerné.
On avance?
Oui.
Qu'est-ce que vous êtes en train de faire?
Cuisiner.
Vous êtes en train de cuisiner quoi?
Les poissons.
Vous êtes toutes en train de décailler les poissons et derrière vous, il y a d'autres femmes qui sont en train de retirer les huîtres des coquillages. Et là-bas, c'est la pluche des oignons. Et puis, il y a deux grosses marmites qui sont en train de cuire sur le feu.
On prépare ça pour tous les gens qui sont réunis ici à Hilol. Le plat de chou. Oignon, avec poivre, tout avec le tomate. On a préparé le riz encore dans la marmite qui est grande. On a tout préparé là.
Comment vous vous appelez?
Severino.
Et ici, à Ilol, vous cuisinez toujours tout ensemble?
Oui, tout ensemble. Tous les cagnolins là. Ça, celle-là.
Là, vous êtes en train de me montrer votre collier. Et là, vous êtes toutes les trois avec un collier à perles blanches.
Oui.
Et au milieu, il y a trois perles différentes. Bleu, noir avec du rouge, du vert.
Oui. C'est ça. C'est ça qu'on apporte. Pour montrer que nous sommes des cagnolins. Pas avec les femmes. Tu n'as pas vu hier, quand vous avez arrivé, faut tu danses, tu chantes. C'est ça.
Et ça signifie quoi, ce collier?
Ce collier signifie quand elle a la grossesse, quand elle accouche, la femme meurt. C'est pour cela qu'on a fait ça, pour qu'elle puisse avoir des enfants. Oui.
Donc si je comprends bien, ce collier, il signifie que vous avez perdu un enfant, c'est ça?
Oui, on a perdu des enfants.
Et du coup, vous ne pouvez pas vous mélanger aux autres femmes?
Non. Aux femmes. Nous sommes des agnagnés là. C'est une tradition, tu vois, encore dans les îles. Oui. C'est pour ça qu'on danse, pour avoir des enfants. C'est pas ça.
Merci.
Voilà.
Je m'appelle Ibrahim Ndiaye. Je suis agent technique des parcs nationaux en service au niveau de la réserve ornithologique de Kalesai.
Ibrahima, vous êtes venu donner une formation aux femmes aujourd'hui à Ilol. Est-ce que vous pouvez m'expliquer?
Oui, on est venu à Ilol pour une formation sur les foyers améliorés. Les foyers améliorés, ça sert à cuisiner avec moins de bois. Ça diminue vraiment le besoin en bois de chauffe. Ça se fera ressentir sur la mangrove. Bon, au lieu de 15 morceaux de bois, on n'a qu'au maximum 3 morceaux de bois pour préparer toute la journée.
Pour essayer de décrire ce foyer amélioré, il s'agit d'un four en fait en argile et fabriqué en arc de cercle de façon à pouvoir poser la marmite au centre. Et vous avez creusé 2 cheminées de chaque côté pour pouvoir laisser la fumée s'échapper.
Oui, on le construit comme ça. Vous voyez, après avoir mélangé, bien mélangé de façon homogène l'argile, et on met les 3 pierres qui vont servir de support pour la marmite.
Le foyer amélioré est donc en construction. Les femmes sont en train de faire des boules avec l'argile. Racontez-moi comment ça fonctionne.
La confection de ce foyer se fait avec un matériau qui est accessible à tous, à base d'argile, de sable, de balles de riz, de coque de mil, quoi. La couverture du riz qui sert de
la pellicule du riz.
La pellicule du riz pour connecter, bien connecter le sable et l'argile. Pour ceux qui cultivent du riz, là, on est dans une zone de rizière. Les gens cultivent du riz, donc on va utiliser le déchet du riz. Si c'était dans une zone où il y a du mil, on allait prendre les coques de mil. À défaut de tout ça, on prend la paille molle. Et vous voyez les femmes qui sont là-bas en train de piler l'argile. C'est pour mettre ça en poudre, parce que ce sera en contact avec du sable. Le sable est là à côté, la paille est là. Donc, premièrement, les avantages sont énormes. Il y a le temps de cuisson qui est réduit. Il y a aussi les enfants qui peuvent jouer à côté sans toucher la marmite. Il n'y a aussi pas de risque de renversement de la marmite.
Ni d'inhalation de la fumée. C'est assez toxique, la fumée que les femmes respirent à chaque fois qu'elles cuisinent.
Il y a moins de fumée. Avec le four, il y a moins de fumée. Donc la femme qui cuisine n'est pas vraiment à l'aise. Il y a peu de fumée qui s'échappe vers le haut. Il y a aussi, quand c'est une zone en brousse, par exemple, il y a la paille, il n'y a pas possibilité d'échappement de feu pour créer un incendie comme ça.
Et donc, je crois que ce système de fabrication, ça a un nom un peu particulier, ça s'appelle des solutions basées sur la nature, c'est-à-dire prendre les matériaux qu'on a autour de nous, sans avoir besoin d'importer quoi que ce soit, pour construire une solution durable.
C'est ça, vous voyez, comment ça soulage économiquement la communauté, comment ça permet de conserver, de laisser la nature vraiment souffler. Vous voyez, ici en particulier, ici, la mangrove, qui est la ressource la plus marquante. La communauté, effectivement, elle a besoin de ressources ou bien de la matière ligneuse. Donc on ne peut pas empêcher totalement cette utilisation. Mais il est nécessaire aujourd'hui de penser à des mesures d'accompagnement. Dès qu'on diminue le besoin en bois de chauffe, je pense que le problème d'agression de la forêt, d'agression de la mangrove va diminuer dans le temps.
Tout de suite sur RFI, Climat, par le grand musicien sénégalais Omar Penn, un sage dans le grand village du monde.
Le réchauffement climatique et ses conséquences, sécheresse, érosion côtière, disparition d'espèces, famine, pauvreté, maladie, exode, migration.
Si loin, si proche, tous les voyages sont sur RFI.
Donc nous sommes devant une très bonne colonie de sternes royales, juste à la pointe de banc de sable qui apparaît au niveau de la mouchure du fleuve Saloulou.
On entend la houle à notre droite, il y a beaucoup de vent. Donc là on est vraiment à l'extrême sud de la réserve, devant nous c'est la mer.
Devant nous, c'est l'Atlantique. Et ce sont les cernes royales, ce sont des oiseaux dont la calotte est noire. La tête est noire. Le bec jaune. Et le reste du corps est blanc. Ce sont des espèces migratrices qui viennent chaque année faire la nidification au niveau de la réserve ornithologique de Kalisai. Donc, c'est une nouvelle arrivée. En quelque sorte, c'est la prospection qu'ils sont en train de faire comme ça. Dès qu'ils constateront qu'il n'y a pas de perturbation, pas de remontée d'eau qui vont pouvoir atteindre les œufs ou bien les nids, ils vont démarrer leur activité de ponte. Il y a ce qu'on appelle aussi la parade nuptiale. De la façon dont vous les voyez en paquet comme ça, ils se cherchent. Les mâles et les femelles se cherchent. Dès qu'ils jugeront que le site est favorable à la reproduction, vous les verrez par deux, par couple. Vous allez voir qu'ils vont commencer à faire des parades nuptiales très intéressantes.
Ça ressemble à quoi une parade nuptiale?
Une parade nuptiale, c'est la vie. Vous allez voir des envolées de dos royal qui s'envolent et qui se côtoient jusqu'à une altitude, et ils retournent se poser, se regarder, se faire des mouvements des ailes, le mouvement de la queue, et faire des cris. Ils se communiquent par des cris. Nous sommes là, ils peuvent être inquiétés, parce que c'est la présence de quelque chose qui leur est étrangère. Il faut qu'ils alertent. Il y a quelqu'un, il y a quelque chose, ils ne savent pas si c'est un prédateur, donc il faut qu'ils jettent le cri pour que tout le reste puisse être en garde.
Et ces oiseaux, les royales, ils viennent d'où?
Ils viennent de l'Europe, de l'Asie, de l'Amérique.
C'est plaisant comme spectacle, Jean, ce qu'on est en train de vivre.
Ouais, ouais, franchement, les royales se sont envolées. Il y a des goélands bruns qui sont là-bas. Il y a des caspiennes qui sont là-bas. C'est une joie énorme de voir ces espèces que beaucoup de gens ne comprennent pas.
Et qui ont fait le voyage jusqu'à la réserve de Calisay.
Voilà, voilà, voilà. Donc, ils viennent ici. Ils vont se reproduire. Ils vont soutenir les petits jusqu'au moment de l'envol. Ceux qui sont bien engraissés retourneront avec les parents. Ceux qui ne sont pas encore à l'âge, ils resteront jusqu'à l'année prochaine. Vous savez, l'être humain a besoin d'un temps, des fois, pour découvrir certaines choses de la nature. Et quand nous voyons ce que ces oiseaux devant nous, en groupe, en solidarité, ensemble, sans aucun dérangement, avec toute une complicité entre eux, sans que l'un ne dérange l'autre. Je veux vous dire que la symbiose qui existe entre les oiseaux, si cette symbiose existait entre les hommes, je pense qu'il n'y aura pas assez de problèmes dans ce monde. Et tu viens dans ce site, tu regardes ces oiseaux s'envoler, faire des vols planés, tu regardes les vagues qui drainent des granulés de sable qui vont se reposer au fur et à mesure et agrandir l'îlot, ça fait que la vie, elle est partout ailleurs et que nous devons nous soucier de ces espèces comme nous soucions de nous-mêmes.
Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin, nous dit le proverbe africain. Et c'est ce qu'ont compris tous les acteurs et habitants de cette réserve de Calisay. Sachant qu'au-delà du suivi écologique et de la surveillance, la réserve se veut aussi un lieu de formation et d'éducation environnementale. Le tourisme, encadré par la réserve, est un des leviers économiques que souhaiteraient développer les acteurs et habitants de cette réserve. Mais pour l'instant, la crise sanitaire et l'instabilité de la région compliquent cette volonté de voir les lieux ouverts à tous les oiseaux de passage. Au fil de l'eau, en Casamance, au cœur de la réserve de Calisay, c'était un reportage de Raphaël Constant, deux épisodes, réalisés avec le concours du PPI, le programme des petites initiatives mises en œuvre par le comité français de l'UICN, Union internationale pour la conservation de la nature. Merci à eux, merci à tous les agents et les habitants de la réserve pour leur accueil, et merci à Raphaël Constant, Diata, pour ce voyage au long cours. Céline Develay-Mazurel, Laure Allary, on vous salue, chers auditeurs. Bonne semaine à vous, à l'écoute de RFI, et à la semaine prochaine pour de nouveaux voyages.